Les élections municipales approchent et Radio Campus Angers va vivre au rythme de la campagne. Du 24 au 28 février et du 10 au 14 mars, chaque candidat à la mairie sera l'invité du sous-marin de 19h à 20h. Épluchage de programme, micro-trottoir, réponse aux questions des auditeurs, nous passons en mode électoral.
Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu consacrée aux élections municipales. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, si le cœur vous en dit. Enfilez donc un scaphandrier, je suis Tiffaine et à mes côtés, en ce lundi, voici Charlotte pour l'éternel journal des sports en fin d'émission. Bonsoir Charlotte.
Salut Tiffaine.
Bonsoir également Pierre-Antoine.
Bonsoir.
Et bonsoir Valentin.
Bonsoir Tiffaine.
Vous m'avez accompagné tous les deux aujourd'hui pour l'interview de Frédéric Béatz et vous m'accompagnerez toute cette semaine. Comme chaque jour, vous retrouverez l'agenda et la bulle sonore à la fin de ce sous-marin. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Pendant toute cette semaine et également du 10 au 14 mars prochain, le sous-marin va donc recevoir les 9 candidats à l'élection municipale, dont le premier tour aura lieu le 23 mars prochain. Pour des questions pratiques, nous n'avons pas pu réaliser toutes les interviews en direct et nous avons donc fait le choix de toutes les enregistrer pour des questions d'équité. Le premier candidat reçu dans nos studios est Frédéric Béatz. Nous l'avons interviewé ce matin avec Valentin et Pierre-Antoine. Il porte l'écharpe bleu-blanc-rouge depuis janvier 2012. Pourquoi pas depuis 2008, me direz-vous? Eh bien, parce qu'il a succédé en cours de mandat à Jean-Claude Antonini dans des conditions que certains ont critiquées, mais dont il se défend depuis plus de 2 ans. Frédéric Béatz, maire, mais ici candidat à la mairie d'Angers pour la liste Aimé Angers, soutenue par le PS, Europe Écologie Les Verts et le PCF, est notre premier invité pour ce marathon des élections municipales dans le sous-marin. Bonjour Frédéric Béatz.
Bonjour.
Alors, vous avez commencé votre carrière de militant à l'UNEF, dont vous étiez le président à Angers entre 92 et 94. Cela fait combien de temps que vous rêviez du poste de maire?
Oh, un poste de maire, on n'en rêve pas tant qu'on pense que c'est pas et dans ses capacités et aussi dans sa force d'investissement. Moi, j'ai eu un parcours militant et d'élu qui a été très progressif. Je suis un autodidacte de l'action politique, puisque j'ai été conseiller municipal sans aucune délégation, après conseiller municipal délégué, après adjoint d'un quartier, après adjoint au maire. Si c'était un plan de carrière défini, ça aurait pris un temps assez considérable.
Frédéric Béatz, vous êtes sans doute fatigué de cette question, c'est pourquoi on va s'en débarrasser tout de suite. Vous n'avez pas peur de vous confronter au suffrage des Angevins, vous qui n'avez pas été élu maire en 2008?
Non. J'en ai absolument pas peur, d'abord parce que je l'ai gagné à 2 reprises, sur mon nom en tant que conseiller général de la Roseraie, et puis comme tête de liste départementale au régional en 2010. Et puis j'ai un contact continu, quotidien, avec les Angevins, et j'aborde cette période avec humilité, parce que une campagne électorale, c'est l'occasion de se remettre en cause, de discuter, de prendre la mesure des difficultés, mais aussi avec volonté.
Est-ce que vous avez lu le livre d'Alain Machefer, La machine à perdre, dans lequel le journaliste retrace entre autres le récit de la journée du 20 janvier 2012, Frédéric Béatz?
On l'a lu pour moi, ou je l'ai parcouru rapidement, mais cette question ne m'a pas intéressé au point que j'aille sur les analyses ou les questions qui se sont posées. Je suis très vite passé à autre chose, parce que, et je pense que c'est les dérives de l'action politique, c'est de se contenter des bruits qui sont toujours alimentés par des personnes bienveillantes pour faire les analyses après coup. Moi, j'ai tout de suite abandonné cette question, parce que c'était l'urgence d'être dans l'action. Il y a tellement de difficultés, tellement d'enjeux, que ce qui pourrait se passer dans les couloirs doit s'effacer au profit de la réalité des choses.
Alors, dans ce livre, il est écrit que lors de cette journée du 20 janvier 2012, vous auriez dit à Sophie Briand-Boucher, qui est désormais sur la liste de Jean-Luc Rotureau, « Tu voteras pour moi, sinon je te retirerai ta délégation d'adjointe ». Est-ce que vous avez prononcé cette phrase, Frédéric Béatz?
Non.
Non?
Non, non.
Donc Alain Machefer s'est trompé?
Oui, enfin c'est peut-être ceux qui lui ont transmis ces informations-là, qui ont voulu réécrire l'histoire, comme je le disais. Donc c'est une phrase que je n'ai absolument pas prononcée.
Nous allons à présent, avec Valentin et Pierre-Antoine en studio, évoquer certaines de vos propositions. Nous en avons sélectionné quelques-unes visant notamment la jeunesse, l'emploi et encore la culture. La première d'entre elles, c'est la suivante dans votre programme. Vous dites que vous aiderez 100 étudiants à créer leur entreprise. Valentin et Pierre-Antoine sont allés de mon mission.
Aider 100 étudiants à faire leur entreprise,
Pourquoi pas, c'est une bonne idée d'aider les jeunes à construire leur avenir.
C'est plutôt une bonne idée de les aider à créer leur entreprise. Après, il faudrait voir si ce serait les aider d'un point de vue national ou régional. Parce que si pour aider des étudiants, par exemple, angevins ou qui sont du Maine-et-Loire, pour créer dans le Maine-et-Loire, ça pourrait être bien, parce que ça aussi aiderait l'économie du Maine-et-Loire et ainsi être mieux. Après, si c'est plus national, c'est aussi bien, mais je ne sais pas s'il y aura aussi d'autres répercussions par la suite sur la région.
Après, ça dépend, enfin, il souhaitait aider 100 étudiants, mais après les autres, enfin, c'est un critère de sélection, c'est quoi?
Alors Frédéric Béat, je vous relance la question, pourquoi 100 étudiants et pas plus, et comment seront-ils choisis?
Parce qu'il faut d'abord se donner un premier objectif. D'abord, cette proposition, elle s'assoit dans le réel. J'étais à la remise des diplômes d'Istia, il y a peu de temps, où l'exemple a été pris de deux étudiants qui sont en train de créer leur entreprise. Ce n'est pas une réponse absolue pour tous les étudiants. C'est la volonté d'accompagner ceux qui sont à Angers, qui ont des idées pour y rester et qui veulent créer leur activité, et souvent en lien toujours important avec leur ancienne école ou leur ancienne université. C'est la capacité de soutenir les talents qui existent à Angers pour éviter qu'ils aillent ailleurs créer leur propre activité. Donc sans, c'est un premier objectif. Après, il est un peu indéterminé, parce qu'on ne sait pas combien d'étudiants vont vouloir créer leur activité ou leur entreprise. Après, sur les modalités d'action et de création, ça sera un examen de chaque dossier, avec la présence du monde universitaire, de l'enseignement supérieur, du monde de l'entreprise et des collectivités, parce qu'il s'agit aussi d'accompagner un projet. Il ne s'agit pas de faire croire, c'est ce que chacun peut créer facilement son entreprise. Il faut être accompagné, soutenu. Il y a des dispositifs qui existent, et avec l'expérience de ces dispositifs, c'est aussi l'occasion d'avoir un tuteur, d'avoir un vrai accompagnement sur la durée. Ce n'est pas une mesure gadget, mais c'est une mesure qui doit s'installer dans la durée.
Pierre-Antoine ?
Oui, donc quel type d'entreprise souhaitez-vous soutenir ?
Tout type, ça peut être pour les étudiants chercheurs dans ce qu'on appelle la valorisation, ce qu'ils ont fait dans les travaux de recherche, la relation entre la recherche et l'entreprise. On sait que ça, ce sont des notamment aux États-Unis des passerelles qui sont souvent utilisées et prometteuses, mais ça peut être aussi un étudiant d'école de commerce ou d'ingénieur, sans être pour autant thésard pour créer son activité en fonction de ce qu'il a pu apprendre dans son école pour le mettre en application. On n'a pas fixé de limites, ça peut être dans le domaine du végétal. Moi, j'ai vu un étudiant dans le domaine du végétal qui sait déjà ce qu'il veut créer demain. Il veut créer son propre emploi, un propre concept. Ça peut être dans le domaine de l'art avec la place du design, notamment. On a une école autour de Talm, l'école des Beaux-Arts, qui est très performante dans ces domaines. Ça peut être dans tous les domaines.
Et une autre proposition que vous faites pour aider les jeunes dans ce domaine de l'emploi, c'est soutenir les entreprises pour qu'elles s'installent dans les quartiers et qu'elles y recrutent des jeunes.
C'est pas une mauvaise idée, mais après il faut que ça marche, il faut que ça aboutisse aussi, parce que c'est bien beau de dire qu'on embauche les jeunes tout de suite, mais enfin, je sais pas si ça peut vraiment marcher.
Je pense que c'est plutôt pas mal, parce que enfin, en tant que jeune, on a souvent du mal à trouver des postes. Enfin, je sais qu'à côté des cours, c'est un peu compliqué à part McDo, donc enfin, je pense que c'est une bonne idée, moi, non ?
Nous, on est jeunes et on cherche des stages, et même en sortant de l'université, je sais que c'est pas évident sur le marché du travail, donc que les entreprises recrutent des jeunes, c'est une bonne idée, je trouve.
Alors, Frédéric Béat, pourquoi une entreprise s'installerait dans les quartiers et qu'est-ce qui pourrait faire revenir l'entrepreneuriat ?
Alors d'abord, cette mesure, elle est dans la complémentarité des autres zones ou secteurs pour l'implantation d'entreprises. On a deux projets phares qui sont autour de la gare avec Gare Plus et sur les berges de Maine avec Angers Rive Nouvelle. On a deux espaces majeurs d'attractivité pour accueillir des entreprises, soit qui viennent de l'extérieur, soit qui sont à Angers et qui veulent se développer, se créer ou se développer. Et dans nos quartiers, il y a un enjeu de mixité de fonctions. Nos grands quartiers sont réservés au logement, c'est un problème. Il faut y réinstaller de l'activité. Et cette problématique de zone franche que je veux pousser, c'est de dire, voilà, on va commencer aussi de façon concrète sur le quartier de Montplaisir, avec un espace identifié. Et l'objectif, c'est d'aider des entreprises qui recrutent des jeunes angevins dans leur création ou leur développement avec une règle de donnant-donnant. C'est-à-dire de vérification très précise que des jeunes sont bien embauchés. Et en contrepartie, c'est des remises de loyers, des conditions d'accueil favorisées. Puis c'est aussi, et les jeunes en sont les premières victimes, la volonté de casser le millefeuille de dispositifs administratifs. À l'occasion de ce projet, je veux que chaque acteur du domaine de l'emploi, de Pôle emploi jusqu'à la mission locale, en passant par les services de l'État, de la région, chacun se mette autour de la table et regarde les dispositifs destinés au quartier pour qu'on vérifie ce qui se superpose ou ce qui manque. Donc c'est aussi cet enjeu de clarté et de mobilisation de nouveaux moyens pour l'emploi des jeunes.
Et ça pourrait pallier aux 322 dépôts de bilan de l'année 2013 à Angers ?
Non, enfin, ça pallie pas à ces difficultés des entreprises. On sait que on est face à une crise extrêmement importante, jamais vue dans notre pays et en Europe. Moi, je n'ai pas de baguette magique, ça se saurait. Sinon, Angers serait l'Eldorado de ce 21e siècle. Simplement, on a un devoir d'essayer. On a un devoir d'expérimenter de nouvelles réponses dans tous les domaines. Et c'est pas une réponse. C'est 20, c'est 30. Pour accompagner les acteurs économiques, pour se développer, pour trouver de nouveaux marchés, pour trouver le financement. Il y a un vrai problème de financement des entreprises aujourd'hui, des toutes petites comme des plus grandes. Et pour tout cela, ce que je souhaite promouvoir dans cette élection et dans mes propositions, c'est la consolidation des réseaux locaux d'acteurs économiques. On l'a fait avec succès dans le domaine de l'électronique professionnelle avec WeNetwork, le domaine du végétal également s'organise. Nous devons aider nos acteurs économiques à travailler ensemble davantage et puis aussi à renforcer ces liens entre entreprises, universités, recherche, collectivités. Parce que on sait que c'est dans la capacité à travailler ensemble, à inventer ensemble de nouvelles réponses qu'on saura préparer un meilleur avenir pour l'économie et pour l'emploi.
Valentin et Pierre-Antoine ont sélectionné une troisième proposition dans votre liste, accompagner les étudiants boursiers, les jeunes travailleurs, avec un tarif mensuel de 5 euros pour les transports en commun.
C'est peut-être pas assez, enfin, ça dépend en fait, mais je pense que par rapport au prix de l'abonnement par mois, c'est peut-être pas assez.
Ah, je trouve que ça peut être une bonne idée, parce que je crois que les transports en commun, ça reste quand même assez cher pour ce que c'est. Enfin, moi, j'ai une voiture, mais avant, je prenais le bus et je sais que c'était très cher, même par carte, donc 5 euros, ouais, ça serait vraiment peut-être très intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Je pense que ça peut être une bonne chose, dans la mesure où c'est vrai qu'on n'a peut-être pas un gros budget, donc pas plus mal de rendre ça accessible. Après, d'un côté, la ville d'Angers n'est quand même pas très très grande, donc il y a peut-être d'autres priorités à mettre en œuvre.
Frédéric Béas, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, vous qui êtes maire depuis 2 ans ?
Bah d'abord parce que c'est une compétence de l'agglomération, c'est pas une compétence de la mairie, hein, les transports. Ensuite, parce que nous allons installer la deuxième ligne de tramway qui va desservir le campus de Belbeil. Donc c'est aussi l'arrivée du tramway dans le prochain mandat sur le campus qui va desservir encore plus d'étudiants. Et puis enfin, c'est l'analyse de la situation telle que je l'ai fait, telle qu'elle m'a été livrée notamment par les universités et les écoles, que un grand nombre d'étudiants sont dans la grande précarité. Nous venons de mettre ensemble le pôle universitaire angevin qui est né il y a une dizaine de jours, qui regroupe les écoles, l'université, tout le monde ensemble pour la première fois autour d'une même ambition pour l'enseignement supérieur à Angers. Et un de ces volets est celui de la vie étudiante. Donc c'est tout récent, ça tient de 10 jours. Et nous sommes engagés, la ville, moi en tant que maire, à accompagner ce dispositif. Et parmi les questions identifiées de relations des étudiants avec la ville et de précarité, de difficulté, la question des transports est importante. Et donc, pour les étudiants boursiers, ceux qui connaissent le plus de difficultés, l'idée c'est de faciliter leur mobilité et leur déplacement avec un tarif spécifique, comme il est aujourd'hui le cas, hein, pour les adultes qui sont exclus du monde du travail.
Valentin.
Frédéric Béretz, vous parlez du tramway et on sait très bien que la ligne A de ce fameux tramway, lors de sa construction, fut un problème pour les commerçants et les habitants. Est-ce que vous avez appris de vos erreurs pour la construction de la ligne B ?
Je pense que par nature, des travaux, pendant un moment, peuvent créer des difficultés. C'est indéniable, quel que soit le tracé de la deuxième ligne de tramway qui est choisie. Ce qu'on a appris et ce qu'on retient, c'est d'abord le fait de mieux phaser les travaux, parce qu'on a l'expérience de la première ligne, pour limiter les temps de difficulté. Et puis c'est aussi mieux prendre en compte les difficultés pratiques, concrètes des commerçants, dont on parle, mais aussi des habitants, pour accéder chez eux. Donc on a pu améliorer au fil du chantier de la première ligne ces questions-là. On a maintenant un savoir-faire plus important, puisqu'on a déjà expérimenté autour de la première ligne. Et je peux vous assurer que, certes, il peut y avoir des difficultés, pas les nier, pendant les travaux, mais qu'après, ça crée aussi une ressource importante. Et puis, une source de notoriété et de capacité pour toute la ville qui est considérable. On sait qu'autour des stations de tramway, ça génère plus de fréquentation, plus de passages, et ça sera encore plus vrai dans 10, 15 ans, avec l'évolution des modes de transport.
Vous tablez sur combien de temps de travaux pour cette ligne B ?
En fait, ça sera très différent en fonction des secteurs, parce que une ligne de tramway, il faut d'abord faire les réseaux. Tout ce que sont les réseaux sous les voies, ils ne sont pas tous dans le même état. Et puis ensuite, réaliser les infrastructures elles-mêmes. Donc l'objectif est d'une réalisation pour 2019, hein, ouverture en 2019, sachant que les phases de travaux par secteur sont autour d'un an à peu près.
Je vous propose de marquer une pause musicale, Frédéric Béatz, avec un artiste angevin. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, je vous laisse deviner. est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agissait, Frédéric Beatz?
Absolument pas, mais c'est très sympa.
C'est très sympa, ça s'appelle Bud McMuffin, et c'était Don't Mess With Us. On va passer aux propositions culture de votre programme, avec une proposition qui mêle plusieurs secteurs. Vous voulez créer une halle créative dans le quartier Saint-Serge en 2016 qui réunirait chercheurs, ateliers d'artistes, lieux de création et diffusion pour les musiques actuelles. Les studios Tostaki, le Shabada, le Pad ne suffisent pas.
Non, ils suffisent pas, effectivement, parce qu'il y a une vraie dynamique culturelle à Angers, notamment sur la scène des musiques actuelles. Nous avons mis en valeur un certain nombre de ces talents avec nos deux playlists. Alors peut-être que McMuffin pourra rentrer dans la playlist 3, peut-être plus tard, la prochaine. Mais il y a une vraie vitalité dans ce domaine. Il y a un manque. Clairement qui est exprimé, qui existe entre ce qui se passe dans les cafés et ce qu'il y a au Shabada. Il ne s'agit ni de concurrencer les deux, mais de trouver un espace entre les deux qui permettrait à des groupes dans tous les domaines de pouvoir éclore et se développer. Vous savez que sur cette question, si la ville, depuis que je suis maire, a lancé les deux playlists, c'est pour soutenir ses talents. Nous avons un vrai partenariat avec Austin sur la musique, avec le South by Southwest à Austin. C'est aussi au-delà de la musique, que le plaisir qu'on peut avoir à aller assister à un concert, c'est derrière une vraie économie.
Qu'est-ce que vous allez faire pour la culture underground et les cafés-concerts?
Alors, il y a à Angers une vraie qualité qui existe. Rachel Capron qui aujourd'hui s'occupe des musiques actuelles et qui demain sera mon adjointe à la culture, connaît parfaitement ce domaine, ce secteur. Elle est en soutien à ce qui peut se passer dans les bars, et donc il faut que ça continue, parce que notre logique, comme je vous disais, de trouver un lieu intermédiaire, n'est pas de concurrencer les bars qui ont leur propre jauge un peu plus petite, mais au contraire de trouver cette phase intermédiaire entre les bars et le Shabada.
Dans votre programme, il y a aussi la création d'un festival de musique actuelle au lac de Maine en 2015. Vous aimeriez qu'elle ressemble à quoi, ce festival?
Mais l'ambition, c'est d'avoir un vrai grand festival qui trouve sa place à Angers d'envergure européenne. C'est Christophe Davy de Radical Productions qui porte ce projet. Donc, il était directeur artistique du Printemps de Bourges et de Rock en Seine, donc il connaît parfaitement ces questions-là. C'est d'abord un projet privé qu'il porte pour qu'il soit efficace et qu'il soit aussi dans sa programmation, dans son économie tout à fait cohérent. Donc, c'est lui qui le porte. La ville serait en soutien de l'organisation de ce festival. L'objectif, il est que, je crois qu'il est triple. Un, que les talents de la scène musicale ou qui travaillent dans l'industrie culturelle et créative soient reconnus à Angers et trouvent un moyen de travailler toute l'année autour de ce festival et soient valorisés. Deuxièmement, que la notoriété de la ville, pour une image plus dynamique, plus jeune, soit aussi renforcée. Et le troisième, c'est lié aussi à nos étudiants. C'est-à-dire que nos étudiants soient fiers de leur ville, de dire lorsqu'ils viennent d'une autre ville ou d'une autre région, que à Angers, cette culture musicale, cette qualité de vie, elle s'exprime avec un élément phare auquel on a envie de faire venir ses amis, sa famille.
On va passer à la quatrième proposition que Valentin et Pierre-Antoine ont sélectionnée. On sort complètement du champ de la culture. Il s'agit de déployer la police municipale dans tous les quartiers.
C'est une bonne chose, sauf qu'il va falloir faire attention à certains quartiers qui sont un peu plus chauds que d'autres et à la réaction que vont avoir les habitants de ces quartiers.
Oui, ça me semble une idée correcte. Après, on a supprimé la police de proximité il y a quelques années. Elle me semblait efficace. C'était peut-être aussi bien de la laisser en place.
Je trouve que c'est une bonne idée, mais en même temps, il faut faire attention aussi. Est-ce que la ville d'Angers a vraiment besoin d'avoir plus d'équipements que ce qu'elle a actuellement? Est-ce que ce n'est pas d'autres villes qu'on aurait plus besoin?
Est-ce que la ville d'Angers a vraiment besoin de déployer la police municipale dans les quartiers?
Oui, puis c'est quelque chose que j'ai déjà entrepris, donc qui est en cours et qui est d'ores et déjà couronné de succès. Parce que là, nous sommes en complément de la police nationale. On ne remplace pas ce que fait la police nationale. Nous sommes sur une police municipale de veille, de prévention, qui peut aussi concourir aux enquêtes et qui permet avant tout, auprès des habitants, de pouvoir anticiper les difficultés, les secteurs qui peuvent être plus compliqués. Et pour réagir à ce que un de vos auditeurs a pu dire, on a à Angers aucun quartier dans lequel ni la police ni les acteurs n'entrent pas. Et c'est ça qu'on veut maintenir à travers cet îlotage dans les quartiers, c'est d'être en capacité de maintenir ce lien, voilà, avec les habitants et de pouvoir anticiper les situations.
Il y a un projet qui tient la majorité depuis plusieurs années, ce sont les berges de Maine. Angers-Rives Nouvelles, vous en parliez tout à l'heure. Franchement, est-ce que c'est la priorité pour Angers d'aménager les rives de la Maine avec un budget de 6 millions d'euros sur 6 ans, si je ne me trompe pas?
Oui, pour moi, c'est une priorité parce que...
6 millions d'euros par an sur 6 ans.
Oui, c'est une priorité parce que... et je crois que c'est la différence de mon projet avec les autres. C'est que moi, je porte une ambition pour Angers. Mon objectif, c'est de savoir ce que sera Angers dans 6 ans, en 2020. Et dans le monde de compétition économique que nous connaissons, notre ville a besoin d'un élément à la fois différenciant, mais qui correspond à la réalité de ce qu'est la ville. Et Angers-Rives Nouvelles, c'est tout cela. C'est l'opportunité de combiner attractivité, développement économique et qualité de vie. Ça nous est reconnu, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement recherché. Et quand Le Monde titrait il y a quelques jours « Angers veut investir ses berges pour attirer les entreprises et les étudiants », ça montre que le pari est en train d'être gagné. Celui qui conduit ce projet, c'est François Gréter, le Grand Prix de l'urbanisme en France en 2012. Tous les grands architectes, tous ceux qui s'intéressent à l'urbanisme, à l'architecture, sont en train de regarder ce projet de très près. C'est une source de développement économique pour notre territoire demain.
On a du mal à comprendre quand même pourquoi, comment le fait d'aménager les berges de Maine peut être une source de, justement, d'attractivité pour les entreprises.
Parce que l'image des territoires est quelque chose d'important dans la compétition que nous nous livrons avec d'autres agglomérations. Et l'idée d'aller en termes d'image, en termes de capacité de développement, là où les espaces sont propices, où l'image est valorisante, c'est quelque chose de très recherché. Moi, j'ai un exemple là-dessus, c'est le patron de Helpline qui s'est installé à Angers. D'abord 30 emplois, maintenant près de 200. Et c'est ça qui l'a conduit à venir à Angers. Il s'est mis à Saint-Serge. Il dit à Angers, c'est cette capacité qu'il recherche, que tout le monde recherche, de concilier vie professionnelle, vie familiale et équilibre. Et ce projet, c'en est la formidable vitrine. Et d'ores et déjà, nous avons un certain nombre de contacts. Le quartier Saint-Serge en sera la figure de proue. C'est un projet qui est phasé dans le temps. Il s'étalera sur une trentaine d'années parce qu'il faut maîtriser financièrement les choses. Puis ce sont aussi les opportunités peut-être qui nous permettront de le développer, d'implantation d'entreprises, de centres de recherche, d'universités. Pour le budget de la ville, 6 millions d'euros par an, sur un budget de 280 millions d'euros total de la ville, c'est quelque chose qui est raisonnable.
On va conclure cette interview par un petit quiz express. Frédéric Beatz, quel est votre groupe angevin préféré?
Bon, c'est difficile d'en citer qu'un, mais moi j'aime bien les Lemon Queen. Mais là, Scarlett ou Vedette dans la dernière compile sont bien. Peut-être aussi parce que c'est dans un autre registre, My Sweet October, où je trouve que c'est aussi très, très sympathique. J'ai pu les écouter au milieu des vignes, dans Vignes en Ville, c'était un très très bon moment.
Votre dernière sortie culturelle?
Ma dernière sortie culturelle, ben, c'était dimanche dernier à l'ONPL.
C'était un concert de... C'était quel programme?
Alors, il y avait Tchaïkovski, notamment, qui était assez extraordinaire.
Votre bar favori à Angers, Frédéric Beatz?
Mon bar favori à Angers, voilà, c'est pareil, je ne vais pas faire, de jaloux. Il y a beaucoup de bars qui sont très bien à Angers.
Vous les fréquentez régulièrement? Vous faites, c'est ce genre de sortie, vous êtes habitué?
J'avoue que je les fréquente plus en ce moment que... en temps normal, mais j'ai quelques endroits où j'aime bien me retrouver et justement c'est plutôt des moments de quiétude.
Un lieu dans la ville qui vous plaît particulièrement? Vous aimez vous balader?
Moi j'aime beaucoup le parc de Balzac et le lac de Maine. Je trouve que c'est des endroits, j'invite les leftos ou les couche-tards à y aller au beau jour à 7h du matin, 6-7h du matin. Vous voyez la nature en ville et la qualité de nos paysages, c'est absolument magnifique.
Combien de fois par semaine est-ce que vous prenez le tramway, Frédéric Beatz?
Oh là, je le prends rarement. Je le prends lorsque je vais sur les Hauts-de-Saint-Aubin notamment, parce que je peux vous assurer que c'est un gain de temps assez formidable. Donc par semaine, je ne sais pas, peut-être deux fois par mois ou trois fois par mois.
D'accord, c'est effectivement très peu. Question bonus à propos d'un accessoire arboré par chacun de vos colistiers. D'où vient l'idée de porter cette écharpe Parme ?
Mais j'en sais absolument rien. C'est quelqu'un qui a dû avoir cette idée-là à un moment ou à un autre, de se distinguer, de se retrouver. En tout cas, elle vient pas de moi. J'ai pas eu cette ingéniosité-là, mais elle est très bien. Même si il y a beaucoup d'écharpes un peu partout, et ça permet de faire campagne sobrement, mais en même temps avec volonté, en ayant un petit signe distinctif. Je trouve ça très sympa.
Elles sont made in Angers, ces écharpes ?
Oh, ça m'étonnerait que, hélas. À Angers, aujourd'hui, on crée des écharpes à un coût accessible. Il y a de la très bonne production à Angers, mais plutôt de luxe aujourd'hui, avec une entreprise notamment très connue. Mais nos écharpes, non. Je pense que, hélas, à Angers, en France, c'est compliqué. Il y a juste mon costume qui est fabriqué à Limoges. Vous pouvez le voir. Donc, on fabrique encore en France. Made in France.
Merci, Frédéric Béatz, d'avoir été notre invité pour cette première semaine spéciale municipale. Et bon courage pour la campagne.
Merci beaucoup, merci à vous.
Demain dans le sous-marin, nous recevrons Christophe Béchu qui mène la liste Angers pour vous. N'hésitez pas à lui poser des questions sur notre fil @campusangers. Tout de suite, on va écouter un peu de musique. Je vois que il y a un petit problème en régie. Donc on va combler ce direct. On va combler ce direct en vous disant donc que dans ce sous-marin spécial municipal, aujourd'hui nous avons reçu Frédéric Béatz, demain Christophe Béchu, jeudi ce sera Laurent Géraud et vendredi Jean-Luc Rotureau. Nous marquerons ensuite la semaine prochaine une pause dans ce sous-marin et nous reprendrons le 10 mars prochain pour 5 jours spécial municipal avec les 5 autres candidats pour l'élection qui se tiendra le 23 mars pour le premier tour et le 30 pour le second tour. Super, la musique est repartie. On écoute donc Dr Rockit, Café de Flore. bientôt, son acolyte Julien aura terminé son stage et reviendra dans nos studios. En attendant, voici Charlotte toute seule. Après une émission dédiée au sport jeudi, elle revient nous parler encore et toujours, devinez quoi ? De sport. Et oui, alors au programme de ce soir, si je ne me trompe pas, on va parler des JO qui sont aujourd'hui terminés, du foot, du basket, bref, un peu de tout. Donc on commence par la Russie, par Sochi, bref, par les Jeux Olympiques.
Oui, et les JO c'est fini, mais l'heure est au bilan.
Est-ce qu'il est bon au moins ?
On peut dire que oui, compte tenu des résultats d'il y a 4 ans aux JO de Vancouver. Bon ok, il y a 4 ans, on était 11e, 8e au classement général, et là, bon, on est 10e. Mais on stoppe les médisances tout de suite. Nous sommes à 15 médailles, donc 4 de plus, et c'est déjà pas mal. Donc 15 médailles avec 4 médailles d'or, 4 en argent et 7 en bronze. Bon, je vais pas vous faire le détail de toutes les médailles, ça risquerait d'être un peu long, même si on en a que 15, je sais. Mais on peut noter 2 ou 3 grandes performances qui ont marqué la délégation française, mais aussi les Jeux Olympiques.
Comme Martin Fourcade, par exemple.
Exactement, on sent qu'il y a des connaisseurs au biathlon ici, n'est-ce pas ?
Oh oui.
Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, Martin Fourcade, c'est tout simplement l'athlète français de ces Jeux. 2 médailles d'or au biathlon et une 3e médaille d'argent cette fois. Mais à 3 cm, je dis bien à 3 cm, il a loupé l'or au terme d'une course haletante. Où il a même fallu la photo finish pour départager le Norvégien Svensson à notre Français. Pour ceux qui l'ont vécu en direct, comme moi par exemple, c'était carrément stressant et on s'en souviendra. Bon, on peut aussi parler du triplé historique. Et oui, 3 Français sur un podium, ça ne s'était jamais vu aux Jeux Olympiques d'hiver, comme d'été d'ailleurs. Bon, ok, c'est une finale à 4, donc il y avait 3 Français. Mais ça devient un peu plus... Donc oui, ça devient un peu plus facile. Mais il y avait quand même un Canadien, et le Canadien, il était fort. Et il était 3e à mi-parcours. Seulement voilà. En ski cross, la chute n'est jamais loin et surtout, elle profite aux autres. Et ce jour-là, elle a profité à la France. Bref, on félicite nos Français, on ferme le journal de Sochi et puis on se dit à dans 4 ans. Hein.
Oui, on quitte les hautes sphères olympiques et on retrouve les sphères angevines avec, pour commencer, le SCO.
Oui, le SCO s'est déplacé à Auxerre vendredi et comme nous l'a dit Serge le disait, l'entraîneur adjoint de Stéphane Moulin, jouer une équipe de milieu de tableau, voire de bas de tableau, ce n'est pas toujours facile et aucun match n'est gagné d'avance. Et surtout pas celui-là puisqu'il commençait plutôt mal. Avant même que le match n'ait commencé, Maliki, notre gardien légendaire, se blesse au mollet et est obligé de céder sa place à Letellier. Ensuite, 25 minutes plus tard, c'est au tour de Bukamoutou de sortir du terrain blessé au niveau de l'abdomen. Et 20 minutes plus tard, Manceau est blessé à la cheville par l'intervention de Marester qui écope d'un carton rouge. Un match de mauvais augure donc, mais heureusement, Yatara ouvre le score à la mi-temps et double la mise à la 74e minute. Seulement 10 minutes plus tard, les Auxerrois reviennent à un but d'écart grâce à Koulibaly. Une petite frayeur qui n'a finalement pas eu beaucoup d'incidence. 2-1, c'est le résultat de ce match. Un match qui permet au SCO de rester deuxième du classement de Ligue 2 avec seulement un point derrière Metz et un match de retard.
On passe au basket alors, week-end mitigé pour le basket angevin.
Plutôt oui, puisque l'UFAB a gagné et que l'ABC a perdu. On commence par les filles, honneur aux dames, puis qui ont gagné cette semaine contre Villeneuve. Alors ça ne s'annonçait pas à gagner d'avance, étant donné que Villeneuve est 3e du championnat, avant ce match, et surtout le match se jouait sans la Canadienne Murphy qui apporte beaucoup au club. Mais voilà, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'UFAB 10e au classement bat donc Villeneuve d'Ascq 64 à 62. Une petite victoire certes, mais qui est ô combien importante pour le maintien.
Et sinon les gars dans tout ça ?
Bah les gars, ils ont perdu cette semaine. Ils se déplaçaient à Vichy, 5e du classement de National 1. Alors bon, une défaite, mais qui n'a pas trop d'incidence sur le classement puisque l'ABC est toujours 2e derrière Monaco. Et puis ce n'est que la 5e défaite de la saison sur 21 matchs joués, donc rien d'alarmant. Mais c'est une défaite qui peut faire mal au moral. On verra ça la semaine prochaine contre Bordeaux à domicile.
Pas de hockey sur glace cette semaine puisque la saison est finie, ça je l'ai bien compris jeudi dernier, et que les playoffs n'ont pas commencé, mais il y avait du hockey sur gazon. C'était la Coupe de France et apparemment l'aventure continue.
C'était la 8e de finale samedi et les Hawks se sont largement imposés face à Bordeaux 7-3. Que dire à part qu'à la pause, les Hawks menaient 4-3 et qu'après ça, ils ont fait une démonstration de but. Ils sont donc en quart maintenant, mais restent à continuer dans la lignée des victoires pour le championnat. Prochain match contre Rethel et Paris, des matchs qui ne s'annoncent pas si simples.
On finit avec la Ligue 1 parce que ça nous fait plaisir. Et surtout, on va parler de Zlatan, ça faisait longtemps.
Impossible de passer à côté. Ce week-end, hier, Zlatan a encore frappé. Frappé à double,
Triple reprise. Et oui, il n'y a qu'un Zlatan. Oh, j'oubliais, ce match, c'était contre Toulouse. Oui, parce que bon, Zlatan et ses trois buts ont totalement fait de l'ombre à l'adversaire de la journée. Donc Toulouse, qui a quand même réussi à marquer deux buts, et les deux buts de Ben Yedder, comme quoi il n'y a pas que Zlatan qui s'est marqué plusieurs buts dans un même match. Un deuxième triplé pour Zlatan, qui voit maintenant la vie en rose, et surtout qui reste le meilleur buteur du championnat avec 22 buts sur 26 matchs.
Allez, c'est tout pour ce week-end.
Et c'est déjà pas mal.
Merci Charlotte. Avant de vous quitter, voici l'agenda de votre soirée qui se résume ce soir à l'éternel blind test au Donald's Pub à 20h. Aux manettes ce soir, c'était David, et avec moi en studio, Charlotte, Pierre-Antoine et Valentin. Tout de suite à 20h, vous retrouvez DeLorean, le magazine Histoire de Radio Campus Angers, et à 21h, Style, émission de jazz. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter La Bulle Sonore. Un mercredi sur deux, vous retrouvez Artichaut à 19h, le magazine culturel de Radio Campus Angers. La semaine dernière, Zazie a évoqué l'expo David Lynch à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur Campus. Allez, bisous.
Une femme dort dans un canapé pixelisé. Tellement pixelisé qu'il se fond au mur orné de motifs aztèques. La femme est belle, mais je ne vois que ses fesses, alors je suis un peu gênée, mais je m'en vais. Je me retrouve dans une salle de bain, il y a une jolie baignoire, mais l'eau coule à côté. Au-dessus du robinet, sur le carrelage, une sorte d'énorme scarabée fourmi noircit les murs de ses pattes huileuses. Je l'observe, puis il se détourne de mon regard pour me conduire dans un couloir où une petite fille dont la tête a mystérieusement disparu l'attend. Lorsqu'on arrive à son niveau, les deux êtres entrent dans une danse frénétique. Tout est sombre ici et je me sens de trop. Au fond du couloir, il y a une grande fenêtre qui éclaire mon visage. Je décide donc de sortir. C'est ainsi que j'atterris enfin dehors. Il y a un grand désert. Tout gris lui aussi, mais beaucoup plus lumineux. Au milieu de ce désert, une voiture en forme de suppositoire m'attend. Je monte dedans, elle est trop petite pour moi, je dois me courber, m'affaisser pour m'y introduire. C'est alors que je traverse cet immense désert où les tempêtes de sable me poursuivent. À côté de ma voiture, un nourrisson court. Je lui propose de monter dans la voiture, mais il refuse. Le désert, la voiture, le bébé et mon propre corps s'étirent, se dispersent, se rétractent jusqu'à arriver à l'abstraction totale. Des quadrillages, des grosses taches de noir profond, des arcs, des lignes et des pointillés. Je l'avoue à cet instant, ébahi par le décor, mon stylo flanche, laissant place à une page blanche. C'est sûrement mieux ainsi. Je réussis à m'extirper de cette page devenue trop blanche à mon insu. Et tombe face à un grand boulevard au trottoir jonché de vitrines. Dans la première vitrine, une femme me hurle « Hello, my name is Fred ». Je tente de lui répondre, mais elle ne m'entend pas et continue à hurler. Dans la suivante se trouve un immense pistolet qui menace de faire exploser la vitrine dans laquelle il se trouve. Dans celle d'en face, un homme rigole, mais son rire est faux, je crois qu'il a peur, mais je ne sais pas si c'est du pistolet ou de Fred. Je marche encore, mais ça y est, l'expo est terminée. Sur un mur, juste avant de sortir, il y a un grand texte. Les images fixes peuvent raconter des histoires. La plupart du temps, elles racontent de petites histoires. Et il arrive, parfois, que les histoires intéressantes soient de petites histoires. Cependant, la pensée et les émotions peuvent être impliquées quand on regarde une image fixe. Et les petites histoires peuvent se développer jusqu'à devenir de grandes histoires. Tout ça dépend bien du spectateur. Il est quasiment impossible de ne pas avoir une sorte d'image émergée d'une image fixe. Et ça, je trouve que c'est un phénomène magnifique. Small Story, Maison de la Photographie, David Lynch.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.